Voilà, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria France, nous allons retrouver Michel Altmaier. C'est une nouvelle émission, nouvelle intervenante, Les Saints, nos amis. Voilà, on vous retrouve pour cette émission qui a pour thème général Les Saints, nos amis. Alors, Michel Altmaier, peut-être je vais vous laisser d'abord peut-être vous présenter en quelques mots à nos auditeurs.
Alors, je voudrais presque vous proposer de le faire le mois prochain pour ne pas perdre les précieuses minutes, parce que je voudrais aujourd'hui vous présenter Franz et Franziska Jägerstätter, qui ont été un peu connus à travers le film « Une vie cachée ». Et ma raison pour laquelle j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de Franz et Franziska Jägerstätter, c'est qu'il y a 2 jours, la Congrégation pour la doctrine de la foi a donné un nouveau document qui s'appelle « Le bon samaritain », dans lequel il y a un appel à l'objection de conscience, qui est un droit et un devoir pour le personnel soignant dans tout ce qui touche à l'euthanasie et au suicide assisté. Et en priant, en pensant à ce qui attend nos jeunes étudiants, nos jeunes médecins, nos soignants, c'est imposé à moi pour vous le présenter un peu davantage, cette figure magnifique de Franz, jeune père de famille, béatifié, et qui a atteint ce sommet de la fidélité à sa conscience, grâce à son épouse Franziska. Donc voilà, je voudrais vous les présenter avec beaucoup d'amour, en leur demandant à tous les deux, depuis le ciel, de se révéler eux-mêmes à vous. Donc, qui est Franz et qui est Franziska? Alors, Franz est né le 20 mai 1907, dans une petite bourgade de 500 habitants, à quelques kilomètres de la frontière allemande, Saint-Radegund. Et Franz est baptisé le lendemain. Et c'est un enfant qui va connaître une enfance et une jeunesse dans la pauvreté et dans la faim. Parce que sa maman, Rosalie Huber, est servante célibataire dans une ferme. Et elle met au monde un enfant, Franz, et elle et le papa de l'enfant, qui s'appelle Bachmeier Franz, sont des domestiques trop pauvres pour se marier. Et le bébé est confié, jusqu'à ses 9 ans, aux soins de la grand-mère maternelle, Elisabeth Huber, une femme pauvre, mais très aimante et à l'esprit ouvert. Et donc le petit Franz Huber va aller à l'école communale et Franz va souffrir de la faim, bien sûr, mais surtout d'une grande discrimination qu'il subit parce qu'un enfant pauvre illégitime, entre guillemets, ne mérite pas d'avoir la moyenne même si son travail est excellent. Et cet enfant va très vite comprendre que la manière de juger des hommes et celle de Dieu n'est pas la même. Donc arrive la guerre 14-18, l'enfant a 7 ans quand arrive la guerre, et la ferme Huber doit livrer des provisions à l'armée, et donc les grands-parents n'arrivent plus à subvenir aux besoins, et on confie l'enfant au grand-père paternel pendant 1 an. Là, la situation est un peu meilleure pour l'enfant. Et quand il a 10 ans, sa maman épouse Heinrich Jägerstätter, un propriétaire d'une ferme assez aisée. Il adopte l'enfant et donc à partir de février 1917, il existe un Franz Jägerstätter. La maman ne pouvait pas avoir d'autres enfants et Franz sera donc héritier de la ferme. Et il expliquera, alors il a une grande grâce, c'est que le grand-père adoptif est un homme qui a une grande bibliothèque et qui est abonné à beaucoup de bons journaux. Et Franz devient un lecteur passionné, au point qu'il dira plus tard « Celui qui ne lit pas ne pourra jamais être vraiment autonome. » Et il sera facilement le jouet de l'opinion des autres. Il conseillait de lire au moins 3 livres sérieux par an. Ça, c'est quelque chose qui doit nous rejoindre aujourd'hui, parce qu'avec toutes les questions de bioéthique, d'éthique, si nous ne lisons pas aujourd'hui, nous ne saurons pas répondre aux questions que les jeunes nous posent sur le prix de la vie, la valeur de la vie. Et donc, il quitte l'école à 14 ans pour travailler à la ferme. Mais malgré le peu de bagages, il continue à lire énormément. Et il note ses réflexions. Il a une dizaine de petits carnets qui sont des trésors pour comprendre la richesse et la grandeur de son âme. Donc c'est un jeune gai, dynamique, un peu turbulent. Il est très aimé au village. À 20 ans, il quitte le village, c'est un événement pour lui. Il s'exile pendant 3 ans comme ouvrier dans une mine de fer. Et là, il travaille avec des communistes et il se trouve dans un milieu hostile à l'Église, ce qui provoque une crise religieuse. Il cesse d'aller à la messe et constate qu'il n'est pas plus heureux. Quand il revient au pays, il a 27 ans, il a 25 ans, il retrouve la foi, il est le premier, grâce à l'argent qu'il a gagné, à s'acheter une moto, et son beau-père meurt et il devient le fermier propriétaire. Mais sa foi est encore fragile. Cette liberté, cette petite somme d'argent, le trouble de la crise de foi qu'il a vécu font que d'une liaison amoureuse sans lendemain naît en 33 une petite fille Hildegarde. Et c'est un point de la vie de Franz qui nous le rend si proche aujourd'hui. Parce que oui, Franz a été un jeune qui a été fragilisé, qui lui-même est né hors mariage. Et cette petite Hildegarde, il va proposer à la maman d'Hildegarde de prendre cet enfant, de l'élever. La maman ne le veut pas, mais quand Franz sera marié, une fois par semaine et jusqu'après la mort de Franz, cet enfant viendra chaque semaine vivre au foyer de Franz. Et cette nouvelle situation aussi en 1933, de la montée du nazisme, de Hitler qui prend le pouvoir en Allemagne, et puis de cet acte de responsabilité d'être devenu papa si jeune, fait que Franz devient un jeune très sérieux qui réfléchit davantage. 2 ans plus tard, il rencontre au cours d'un bal qui est organisé dans un restaurant où travaille une jeune fille dont le sérieux, dont la pureté frappe Franz. Il repère son visage, il fera le tour des bals pour la retrouver et il la demande en mariage. Franziska se renseigne pour savoir que fait Franz les dimanches matins, s'il va à la messe. Et quand Franz va amoureusement la demander en mariage, elle lui met une condition. « Franz, es-tu prêt à prier avec moi le chapelet chaque jour ?» Et Franz, à son tour, lui propose que chaque soir, ils lisent ensemble une page d'évangile. Et donc, en 1936, Franz a 29 ans, Franziska a 23 ans, il y a ce bonheur qui durera 7 ans, puisque Franz ensuite mourra martyr, commence une très belle vie de couple. Et le soir du mariage, Franz et Franziska partent en pèlerinage à Rome, où ils ont la joie d'une audience avec le pape qui va les marquer fortement. Alors Franziska communie souvent. Elle est pleine d'humour, de charme. Et Franz a vraiment trouvé la perle précieuse. Et il écrira plus tard à sa femme « Je n'aurais jamais imaginé que le mariage puisse être quelque chose d'aussi beau. » Et jusqu'au bout, ils auront ce cœur plein de tendresse. Et je voudrais vous partager une scène que j'ai vécue, parce que j'ai eu cette grande grâce de connaître personnellement Franziska. Je l'ai rencontrée en 1994 et je l'ai en 2007. Il y a eu la béatification de Franz, j'étais à côté d'elle et je veux vous raconter cet événement. Donc, les cendres de Franz ont été prises autour du cimetière de Sint-Radegund et Franziska devait apporter les cendres pour les déposer dans la cathédrale au moment de la béatification. Donc elle a monté les marches, elle était habillée toute en rouge parce qu'elle voulait avoir les habits du sang versé de Franz. Donc, elle monte les marches, très svelte encore malgré ses 94 ans. Et au moment où elle devait poser l'urne sur le coussin de satin, avant que ne soit proclamée la béatification, elle pose. Et puis, elle ne savait pas que tous, on la voyait parce qu'il y avait les grands écrans qui nous permettaient de voir son visage en grand. Donc, au moment où elle doit poser l'urne, elle a un sourire espiègle. Elle reprend l'urne en main et elle pose un baiser amoureux sur l'urne et repose l'urne sur le coussin. Après la béatification, je lui ai demandé, Franziska, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Elle a raconté, au moment où j'allais poser l'urne, j'entendais Franz se tourner vers Jésus au ciel et dire, mais c'est quoi cette vieillerie-là qui apporte les restes de mon corps? Moi, quand j'ai quitté cette terre, j'ai laissé une radieuse jeune épouse de 30 ans, mais là, c'est une vieillerie. Alors, je me suis dit, Franz, il n'y en a qu'une qui sait te donner un baiser d'amoureuse comme moi. Tu vas me reconnaître. Et je lui ai donné le baiser que je rêve de lui donner quand je le reverrai au ciel. Voilà, c'est pour vous dire à quel point ils ont vécu cet amour tendre et fort. Donc, trois enfants vont naître de leur union. Rosalie en 37, Maria l'année suivante en 38 et Aloïsa en 40. Et Franz va mourir en 43. Et le couple est vraiment très heureux. De 33 à 38, donc nous sommes en Autriche, pas en Allemagne, mais de 33 à 38, l'emprise nazie se fait progressivement sentir en Autriche par la propagande et puis par la présence dans les villages de membres du parti qui étendent leur pouvoir et qui créent un climat de peur. Et puis en mars 38, l'Allemagne franchit les frontières et occupe l'Allemagne. Et le 10 avril 38 a lieu le plébiscite organisé par les nazis en Autriche pour ratifier ce qu'on appelle l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion forcée de l'Autriche à l'Allemagne. Et Franz refuse de voter parce qu'il n'y a plus de choix possible, les chars sont déjà là. Mais Franziska ressent le climat de terreur. Et dans tous les villages, des personnes avaient déjà été envoyées en camp de concentration. Le couple vit une profonde crise parce que Franziska craint pour Franz. Il accepte finalement et vote ouvertement non. Il est le seul du village. Et le maire a tellement peur qu'il annonce qu'il y a 100% de oui. Et Franz se lève et dit « il a dû y avoir une erreur ». Parce que moi, j'ai voté non. Et quand, au moment de cette crise, Franziska, c'est le seul moment où elle l'a fait. Franziska avait menacé Franz que s'il ne vote pas oui, elle refusera de continuer à se donner à lui comme épouse. Et Franz en a été effrayé, et cette divergence d'opinion a appris à Franziska qu'elle n'a pas le droit d'aller contre la conscience de son mari. Et donc, dans ce moment-là, Franz est seul, incroyablement seul, dans ses prises de position d'un catholique autrichien face à la montée du nazisme. Alors, simplement pour nous le rappeler, avant 1933, l'épiscopat allemand et autrichien, tous les deux, avaient attiré l'attention sur les dangers du nazisme. Mais en 1933, un concordat avait été signé entre Rome et le gouvernement de Hitler. Et progressivement, sous la terreur, les prêtres et les évêques commençaient à se taire. Et en 1937, le pape Pie XI avait écrit une encyclique dans un brûlant souci, mais l'Église allemande n'avait pas osé lire en public cette encyclique, et si bien que Franz, il va toujours rester du côté de cette position qu'avait prise le pape Pie XI et refusera toujours de reconnaître qu'il pourrait y avoir quelque chose de juste dans la pensée du nazisme. Donc le 17 juin 1940, pour ceux qui ont vu le film « Une vie cachée », c'est surtout cette période-là qui nous a été présentée magnifiquement. Donc le 17 juin 1940, Franz est appelé une première fois au service militaire actif. Et il pense que son devoir de chrétien est malgré tout d'accomplir consciencieusement son devoir d'État. Il sait que refuser de servir est une question de vie et de mort. Il part donc. Il prête serment à Braunau, qui est le lieu de naissance de Hitler, et il est déclaré indisponible grâce à l'intervention du maire de sa commune, parce qu'il y a trois petites filles en bas âge. Et donc il est libéré, il peut retourner à la ferme. Mais pas pour longtemps, parce que de octobre 40 à avril 41, il est de nouveau convoqué. Et cette fois-ci, il reçoit la formation de conducteur de camion dans la Wehrmacht. Mais de nouveau, le maire obtient sa libération sous le motif qu'on ne peut pas se passer de lui à la ferme. Et là, il va avoir 2 ans de relative tranquillité, mais il vit continuellement dans l'attente redoutée du courrier de la Wehrmacht. Et c'est étonnant parce que jamais Franz n'a demandé à être relevé du service militaire. C'est le maire, sans que Franz ne le sache, qui, voyant Franziska se débattre seule, avait voulu l'aider en obtenant cette libération. Alors, Franz ne voulait aucune compromission. Donc, par exemple, quand il était sapeur-pompier, mais dès que le régime nazi a commencé à prendre en charge les œuvres sociales, Franz ne s'est plus inscrit. Il a simplement dit « Je ne veux pas cotiser au parti ». Et je démissionne, mais si vous avez besoin de moi, dès qu'il y a un incendie, volontairement, je viendrai vous aider. Et la conséquence de cela, on lui a supprimé toutes les aides de l'État pour sa ferme et toutes les allocations familiales. Et alors, il y a un moment très beau, avant d'être muté pour le service militaire, un camarade de l'armée, Rudolf Meyer, va faire connaître à Franz Saint-François et le tiers-ordre de Saint-François. Et ça va être une énorme aide pour Franz. Il va proposer à Franziska qu'elle aussi vérifie si ça ne peut pas être aussi sa vocation. Et tous les deux deviennent membres de l'ordre franciscain séculier et, à la lumière de Saint-François, s'engagent pour être artisans de paix. Alors, quand Franz est libéré du service militaire en avril 1941, il déclare qu'il ne répondra plus à une nouvelle mobilisation parce que Hitler veut dominer le monde entier et que c'est un péché grave de faire la guerre seulement pour l'orgueil d'un homme. Et donc, d'emblée, il sait que ça va lui coûter sa vie et sa propre maman et toute sa famille. Et le prêtre, tout le monde essaye de l'en dissuader. Par exemple, en lui disant, Monsieur Jägerstätter, vous n'avez pas à juger les autres. Votre devoir, c'est d'obéir. Et par cette obéissance, vous servez Dieu. Vous devez servir votre patrie, votre femme, vos enfants, et non pas les précipiter dans la misère à cause de votre orgueil. Mais Franz va trouver l'évêque, et celui-ci a peur que peut-être Franz pourrait être un infiltré de la Gestapo. Donc du bout des lèvres, il l'autorise à agir selon sa conscience, et Franz comprend bien que l'évêque ne lui fait pas confiance parce qu'il a peur de mourir lui aussi. Mais pour Franz, c'est très très dur parce qu'il a voulu que l'évêque le bénisse pour qu'il ait la force de suivre sa conscience et cette bénédiction lui a été refusée. Par exemple, il écrira « On cherche toujours à me faire peser sur la conscience le sort de ma femme et de mes enfants. Mais le fait d'être marié et père de famille rend-il meilleur l'acte que je pose? Est-ce qu'un acte est meilleur ou moins bon parce que des milliers d'autres le font? Est-ce que la parole de Dieu peut être changée? Celui qui, à moi, préfère sa femme, ses enfants, n'est pas digne de moi. » Donc le choix de Franz est vraiment le choix d'un homme profondément croyant. Et il va mettre à profit les 2 années pour se préparer à ce qu'il sait qui va être le tournant de sa vie. Il va beaucoup prier, il va lire la parole de Dieu continuellement, et tout en espérant que la guerre puisse se terminer, il se rend compte qu'il y a dans le reniement de Saint-Pierre une grande peur des hommes. Et cet exemple de Saint-Pierre et sa prière à Saint-Pierre lui permettent de dire qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes et qu'il va suivre jusqu'au bout sa conscience. Donc le 1er mars 43, Franz est mobilisé. Il va prendre le train. Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait la honte que ses enfants le voient être menotté. Il fait des adieux à Franziska, des adieux déchirants. C'est le train qui les arrache littéralement l'un à l'autre. Mais il est tellement perturbé par le choix qu'il va faire qu'il se trompe de direction, qu'il part vers Munich au lieu d'aller à Enns. Quand il arrive enfin à Enns, il hésite une journée entière. Il passe la nuit chez des amis, il prie dans une église. Et il est emprisonné avec 4 autres Lorrains qui sont réfractaires. Il leur propose la prière du chapelet, il partage avec eux la parole de Dieu qu'il sait par cœur. Il écrit à Franziska et ses compagnons diront combien les vexations étaient rudes, combien on les soumettait vraiment à des vraies tortures mentales. Et début mai, Franz est transféré à la prison de Berlin-Tegel et on lui affecte un avocat d'office. Et cet avocat veut vraiment sauver Franz et lui dit « Mais il te suffit de signer. » Mais Franz refuse de prêter le serment d'obéissance inconditionnelle. Il veut seulement obéir inconditionnellement à Dieu. Et l'avocat lui cite cette phrase « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », ce qui veut dire « Faites votre devoir de patriote ». Mais Franz va lui dire « Hitler et Jésus, les deux en même temps, c'est impossible. Je préfère renoncer à mes droits sous le Troisième Reich et sauvegarder mes droits du royaume de Dieu. » Il n'est pas bon d'épargner cette souffrance à ma famille. Mais les souffrances de ce monde sont de courte durée et passagères, et on ne peut absolument pas les comparer aux souffrances que Jésus, par sa passion et sa mort, n'a pas pu épargner à sa sainte mère. Et il écrit à Francisca, « Si telle est la volonté de Dieu, que je ne vous revoie plus, du moins nous nous reverrons dans la joie du ciel. » Il écrit encore « Sans cesse on essaye de me rendre mon choix difficile, mais avoir femme et enfant, est-ce une raison suffisante pour offenser Dieu en mentant, sans compter tout le reste qu'on nous demande de faire ?» Et Franz, vraiment, il va continuer à s'appuyer sur la parole de Dieu. Il dit par exemple, « Je crois que grâce au Seigneur notre Dieu, il n'est pas tellement pénible de risquer notre vie pour notre foi. Si l'on songe que dans ces temps de guerre, des milliers de jeunes gens risquent leur vie pour Hitler et que beaucoup sacrifient leur vie dans ce combat, pourquoi serait-il plus dur de risquer sa vie pour un roi qui, loin de nous imposer des devoirs, nous donne des droits? Il nous donne la victoire finale et son royaume nous est acquis pour l'éternité. » Alors, on va lui lier les mains et Franz va demander à pouvoir écrire un dernier texte avec les deux mains liées, avec une chaîne au pied, une chaîne qui est attachée au mur. Il demande un bout de papier et il écrit « Si pour mettre tous les hommes en garde et les détourner du péché qui entraîne la mort éternelle, on voulait bien se donner autant de peine que l'on se donne pour me soustraire à cette mort, je crois que Satan ne pourrait compter au jugement dernier qu'un bien maigre butin. Je sais que j'ai choisi la meilleure voie. » Et donc il va écrire ces paroles avec les mains liées. « Je consigne ici quelques mots, comme ils me viennent. » Il meurt le lendemain. Donc le 8 août 43, il écrit cela. « Je tiens à consigner ici quelques mots. Ils me viennent directement à l'esprit et me montent du cœur. Même si je les écris les menottes aux mains, j'aime mieux cela que l'asservissement de ma volonté. Ni le cachot, ni les fers, ni la condamnation à mort ne sont en mesure de me ravir ma foi et l'indépendance de ma volonté. Dieu me donne une telle force pour supporter toutes les souffrances, une force supérieure à n'importe quelle puissance du monde. La puissance de Dieu est invincible. » Il ajoute, « Ne craignez pas ceux qui tuent seulement le corps et ne peuvent pas tuer l'âme. Si Dieu ne m'avait pas accordé sa grâce et la force de mourir pour ma foi, je ferais peut-être la même chose que la plupart des autres. Je préfère renoncer parce que ma souffrance, je l'unis à la passion de Jésus. Ce que Dieu a réservé à ceux qui l'aiment, aucun œil humain ne l'a vu, aucune oreille ne l'a entendu. Tel est le prix inestimable des joies que Dieu nous a réservées. Que d'efforts, que de sacrifices pour consentir à remporter un prix comme sportif. Consentons pour le ciel aux mêmes efforts. Pourquoi pensons-nous si peu à l'éternité? Pourquoi cela nous semble-t-il si dur de faire des sacrifices en vue du ciel? Oui, il existe la puissance invisible dont nous sentons la présence, qui met tout en œuvre pour perdre l'homme à sa perte. C'est la puissance de l'enfer. Lucifer ne sait que trop ce que sont la splendeur du ciel. Mais il ne peut plus y revenir. Il envie notre bonheur. Avec ses complices, il met tout en œuvre pour nous enchaîner. Si nous pensons rarement à l'amour de Dieu et à la miséricorde, Satan gagne. L'homme qui est tourné uniquement vers la terre va améliorer sa vie dans ce monde. Mais que va-t-il gagner ? Nous combattons pour le roi des rois. Lorsqu'ils vous livreront, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz pour votre défense. Voilà ce que Franz va écrire comme dernier texte avant de mourir. Franziska a encore le droit de venir le voir. Elle est horrifiée de l'état dans lequel elle est Franz. Mais elle ne va pas le laisser seul. Elle va lui murmurer dans le patois bavarois, « Franz, ce que tu as choisi, je l'ai choisi avec toi. » Et le 9 août, il est 16 heures, Franz est décapité à Brandebourg. Et quand l'aumônier veut lui lire le Nouveau Testament, il lui dit « Mon âme est étroitement unie au Seigneur. Une lecture interromprait ma communion. » C'est l'aumônier lui-même qui en témoignera. Et au même moment, Franziska nous l'a raconté, je l'ai entendu de sa bouche plusieurs fois. Au même moment, Franziska ratissait du foin près de la ferme. Et subitement, elle se sent très mal. Elle rentre dans sa cuisine, elle s'assoit, elle entend la pendule sonner 16 heures. Elle vit comme une agonie, elle a l'intuition que c'est l'heure de Franz. Elle prend sa bicyclette, elle va rapidement à l'église paroissiale, elle se précipite devant le Saint-Sacrement et quelques jours plus tard, elle reçoit le courrier lui annonçant la mort de Franz. Elle le savait et elle avait tout offert. Et voilà cette lettre que Franz lui a écrite. « Ma famille aimée, à chaque instant, se rapproche le moment où il faudra que je rende mon âme à Dieu, notre Père. Il y a tant de choses que je voudrais vous exprimer avant de vous quitter. C'est si dur de ne pouvoir vous dire adieu. J'aurais aimé pouvoir vous épargner la peine que je vous cause. Mais vous le savez bien, il faut aimer Dieu plus que sa famille. Il vaut mieux perdre tout ce qui nous est cher ici-bas plutôt que de commettre la plus petite offense envers notre Dieu. Et si à cause de vous, j'avais accepté d'offenser Dieu, je vous aurais déshonoré. Notre Sauveur bien-aimé a dû souffrir d'infliger un tel chagrin à sa mère. Nos peines ne sont rien par rapport à celles du Sauveur et de sa douce mère. De tels adieux coûtent à ceux qui ne croient pas à la vie éternelle. Si je n'avais pas cru à la miséricorde de Dieu, si je n'avais pas espéré son pardon, jamais je n'aurais pu supporter avec autant de calme la vie en prison. Bien qu'on m'ait accusé, condamné à mort comme un criminel, je me console à l'idée que ce qui est un crime aux yeux des hommes est un sacrifice et une gloire et un acte d'amour aux yeux de Dieu. Voilà les derniers mots que Franz a écrits à Franziska. Et donc Franziska a continué de vivre avec beaucoup de difficultés au début parce que on a longuement refusé de considérer Franz comme un patriote et donc il a été considéré comme un déserteur, si bien que pendant 13 ans, Franziska ne recevra aucun dommage de guerre. Elle élèvera ses 3 enfants, assistera la maman de Franz, en aidera d'autres, avant que, enfin, justice soit faite et que Franz soit progressivement reconnu pour celui qu'il est. Et quand on parlera à Franziska de ce long Vendredi Saint, elle dira « Oui, ce fut un long Vendredi Saint, mais je sens que se rapproche le jour de Pâques. » Et ce n'est qu'en 1997 que la justice autrichienne a réhabilité Franz et qu'a pu commencer le procès de béatification de Franz, qui va aboutir le 26 octobre 2007 à sa béatification. Et donc, je vous ai déjà raconté ce moment magnifique où donc à côté de Franziska étaient leurs 3 filles, plus dans le même banc la petite Hildegarde que Franziska a si souvent accueillie. Franziska a eu, à 94 ans, je vous raconte ça avant de finir, elle a voulu faire une surprise à tout le village. Franz, je vous l'avais dit au début, avait acheté une moto avant leur mariage. Eh bien, cette moto a été remise en état et il y avait, comme dans les motos autrefois, une possibilité de mettre de côté comme une petite nacelle dans laquelle on pouvait s'asseoir. Et un arrière-petit-neveu de Franziska conduisait la moto. Et Franziska s'est assise dans cette nacelle et elle est arrivée au lieu où il y avait cette fête, cet éclatement de joie après la béatification, avec bien sûr les hurrahs de tout le village, de tous ceux qui étaient venus à la béatification, parce que l'amoureuse de Franz était redevenue comme une toute jeune épousée, tant était comblé son cœur et qu'elle pouvait rendre à Franz l'immense merci pour le oui qu'il avait donné à Dieu et à sa famille. Voilà cette belle vie de Franz et de Franziska. Donc le procès en béatification de Franziska a commencé et bientôt ils seront déclarés un nouveau couple qui sont devenus saints par la grâce du sacrement de mariage.
Bien, Michel Altmaier, merci beaucoup pour cette première et belle émission. Merci infiniment. Et on vous retrouve.
Avec grande joie.
On vous retrouve donc le mois prochain.
Oui.
Merci. Merci beaucoup, Michel.
À bientôt.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.